Bonjour à toutes et à tous. Tout passera. Les souffrances, les tourments, le sang, la faim et la peste. Le glaive disparaîtra et seules les étoiles demeureront quand il n'y aura plus de traces sur la terre de nos corps et de nos efforts. Il n'est personne au monde qui ne sache cela. Alors, pourquoi ne voulons-nous pas tourner nos regards vers elle ? Pourquoi ? Ce sont les derniers mots du roman de Mikhaïl Bulgakov, « La garde blanche », paru en 1926 et qui décrit, mais sans la nommer, Kiev et son siège lors de la guerre civile de 1919. On relit cela en ces jours fiévreux, comme l'on redécouvre peut-être la traduction française d'un livre inédit de la grande romancière russe Lyudmila Ulitskaya, « Ce n'était que la peste », écrit en 1988, 2 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Il s'agit du scénario d'un film qui n'a jamais été tourné, mais que, d'une certaine manière, on a peut-être quand même vu. Il relate l'épisode réel d'une épidémie de peste à Moscou en 1939. On sait aujourd'hui qu'elle fut provoquée par un accident de laboratoire à Saratov. Le microbiologiste Abraham Berlin s'étant inoculé par erreur l'agent pathogène à la suite d'expérimentations animales et ayant brisé la quarantaine en revenant précipitamment à Moscou parce que, croyait-il, il était convoqué par un hiérarque du parti. Il panique, il se précipite et c'est lui qui devient l'agent contaminateur. Le livre décrit donc la contagion de la peur. L'épidémie n'est en réalité qu'une réplique de la grande terreur stalinienne. Très vite, le NKVD donne le meilleur de lui-même. Dès lors qu'il s'agit d'arrestation, de séquestration, de quarantaine et de mensonges sur l'origine du mal, le pouvoir autoritaire, assurément, est imbattable. La contagion est très vite contenue et tout s'achève par un grand chant patriotique. Heureusement, ce n'était que la peste. Biologiste de formation, Lyudmila Ulitskaya a pensé opportun, dans le contexte de l'épidémie de Covid, en tout cas du début, en 2020, de rééditer cette fable sur le pouvoir et plus précisément sur la panique politique qu'il peut provoquer. Je la cite. Il y a là quelque chose de très subtil, la peste au temps de la peste. Entendez, Yersinia pestis, au temps de la peste émotionnelle, ainsi que l'a décrit le psychanalyste Wilhelm Reich dès 1933, c'est-à-dire cet enchevêtrement de peurs archaïques, de rancœurs collectives et d'histoires mythifiées qui alimentaient alors le brasier du crime nazi. Dans sa variante soviétique, ce qui fait paniquer les femmes et les hommes, c'est l'incapacité d'interpréter correctement les signes. Et cela, Yegor Gran l'a magnifiquement montré dans un roman aussi terrifiant qu'il est hilarant, Les services compétents. Et les personnages de Lyudmila Ulitskaya se laissent, quant à eux, contaminés par la peur, car lorsqu'ils se font arrêter, ils ne savent jamais pourquoi et quelle peste ils doivent craindre le plus. Nous en sommes là, le glaive sur nos têtes, car l'on ne sait pas si le roi qui l'agite est fou ou joue à paraître fou. Dans les deux cas, on est comme Bulgakov, la tête tournée vers les étoiles, clignant des yeux pour y déceler quelques alignement funeste de ceux précisément qui annoncent le désastre. Le désastre, c'est, au sens propre, l'alignement des mauvaises étoiles. Les souffrances, les tourments, le sang, la faim et la peste. La peste, justement, et celle de 1348, revenons-y. Elle aussi était lisible dans le ciel. La faculté de médecine de Paris, sollicitée par le roi Philippe VI de Valois, avait volontiers repris L'opinion des astrologues dans son fameux avis d'octobre 1348, étudié par Daniel Jacquard. Il y a bien eu, oui, 3 ans plus tôt, en 1345, une conjonction astrale des 3 planètes supérieures, Saturne, Jupiter et Mars, sous le signe du Verseau, et ce fut la remota causa, c'est-à-dire la cause lointaine de la peste, qui provoque une corruption de l'air, qui, sans expliquer la maladie, disons, la favorise. Mais le plus important, c'est de comprendre que le recours ici à l'astrologie ne bloque en rien pour le collectif savant qui donne son avis, le compendium des epidemia, ne bloque en rien l'effort d'objectivation de la maladie qui caractérise l'ensemble de la médecine médiévale, comme j'avais tenté de le dire l'année dernière dans le cours du 23 mars, et comme Marilyn Nicou l'avait développé de manière bien plus savante dans la séance de séminaire du 22 juin qui a suivi. Admettre la causalité astrologique du phénomène épidémique n'est en rien abdiquer la volonté de comprendre, de soigner et de préserver. À la vue des effets dont la cause échappe à la perspicacité, des meilleures intelligences, lit-on dans le prologue du compendium, l'esprit humain tombe dans l'étonnement. Mais une fois tombé dans l'étonnement, il désire évidemment s'en extraire parce que, je le cite, c'est un passage magnifique de cet avis des docteurs au roi qui, vous voyez, au cœur de l'épidémie, l'épidémie fait rage à Paris, évidemment, n'abdique pas la raison. Il y a un besoin inné de poursuivre le bien et le vrai. La question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est donc celle-ci, très simple dans sa formulation. La peste noire a-t-elle fait délirer la société médiévale ? Est-ce qu'elle a altéré ces régimes de rationalité qui ordonnaient la conception religieuse du monde ? Autrement dit, de manière plus laconique encore, a-t-on cédé à la panique ? On se souvient peut-être, on se souvient sûrement, de la vision psycho-historique imposée par Jean Delumeau dans La peur en Occident, en 1978, celle d'une société qui se défait sous les coups répétés d'une rupture inhumaine dans l'ordre des jours, une rupture qui écartèle, en somme, l'homme moyen entre, je le cite, « stoïcisme et débordement, découragement et folie », l'ensemble étant précipité dans une piété panique. L'une de ces manifestations les plus obsessionnellement convoquées par l'historiographie, c'est le mouvement des flagellants. La pratique est relativement ancienne et bien documentée depuis la première confrérie de Pérouse, créée à la fin du carême 1260. Les flagellants, c'est une extension publique et laïque des pratiques pénitentes du cloître, l'autoflagellation, qui prend la forme d'un mouvement confraternel d'imitation des souffrances du Christ dans un contexte, c'est vrai, en 1260, d'attente eschatologique. Leur procession spectaculaire, qui exalte l'idéal dévot de l'ascèse, de la mortification, font des laïcs qui s'y adonnent des, c'est le mot, disciplinati, c'est-à-dire des disciples qui s'éduquent par la correction, comme l'a montré Catherine Vincent, c'est-à-dire les deux sens, au fond, de discipline. Ainsi, le développement pénitentiel des flagellants, dont la première vague, qui est essentiellement italienne, mais qui ensuite passe les Alpes pour atteindre l'Europe centrale, la Hongrie et la Pologne essentiellement, dans les années 1260 donc, ainsi ce mouvement est-il essentiellement structuré par l'idéal confraternel de la discipline des corps et des âmes, le contraire, en somme, d'un mouvement de piété désordonnée. Il est vrai que la deuxième vague, qui débute précisément en 1349, est plus clairement perçue par les pouvoirs comme une menace. On peut craindre que par leur hardiesse et impudence, un grave degré de perversion ne soit atteint si des mesures sévères ne sont pas prises immédiatement pour la supprimer, proclame le pape Clément VI dans la bulle du 26 octobre 1349. Il fut sans doute en cela influencé par les maîtres parisiens, et ce sont ces maîtres parisiens qui, à leur tour, relaient cette décision par l'Université de Paris dès le 3 novembre, ce qui permet au roi de France, Philippe VI de Valois, de les interdire strictement en France. Ils ne passeront pas, il les fait refouler les flagellants de Picardie le 15 février 1350, afin, je cite, que cette secte damnée et réprouvée par l'Église cesse. L'empereur Charles IV prend alors la même décision, et c'est plutôt en Flandre, en Hainaut, en Brabant, que leur progression est décrite, notamment par le chroniqueur de Tournai, Gilles Lemuisite. C'est donc, au fond, un changement d'attitude des pouvoirs publics en Europe du Nord, parce qu'en Italie, cette vague des Bianchi est canalisée par les prédicateurs dominicains. C'est donc ce changement d'attitude donc, qui donne au mouvement des flagellants cette consistance de piété panique dans l'historiographie des années 70 et 80. Panique, c'est sur ce mot, c'est sur cette notion que je voudrais m'arrêter un instant parce qu'elle est aussi devenue omniprésente dans une certaine historiographie qu'il nous faut à présent considérer. En 1990, paraissait le grand livre de Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion, vers 1525, vers 1610, et l'historien y dressait une généalogie d'une modernité inquiète. Depuis cette violence paroxystique, il utilise le mot, qui s'est déchaînée durant les affrontements religieux. Or, cette violence doit être appréhendée dans sa rationalité. Je cite, la rationalité de la violence est de ne pas avoir notre rationalité, ou plutôt d'être pure raison, avec un R majuscule, d'être Dieu. Denis Crouzet décrypte donc la violence des Huguenots et des catholiques comme un langage signifiant, dont la grammaire est fondée sur un système de pratique et de représentation qui constituait, et là je cite Christian Ingrao, qui commente cela dans « Le soleil noir du paroxysme », paru en 2021, une réponse collective désangoissante à l'expérience paroxystique de la mort de masse éprouvée à partir de 1348. À partir de 1348. Je cite Christian Ingrao parce qu'au cours de la séance du séminaire du 13 décembre de l'année dernière, il est revenu sur cette chronologie qui fait du grand angoissement de l'Occident l'arrière-pays du temps des réformes, c'est-à-dire du cycle de réenchantement et de désenchantement du monde. C'est donc finalement l'ensemble de l'histoire moderne qui se place après la peste noire, ou depuis elle, ou à partir d'elle, comme il l'écrit. En fait, dans la vaste fresque brossée par Pierre Chaunu, elle prenait même son élan avant elle, puisqu'elle démarrait avec les premiers fléaux des années 1315-1320. Retenons en tout cas que dans les guerriers de Dieu, stylistiquement, il y a la panique est partout. Il y a une piété panique, une tension panique, une chrétienté panique, une violence panique, un imaginaire panique, une angoisse panique, une prédication panique, un prophétisme panique. Et Denis Crouzet écrit dans son chapitre intitulé « Le temps de la pénitence » la lame de fond panique s'amplifie dans un monde qui plus que jamais s'enchante, ou à l'enchantement duquel les hommes, dans l'ambivalence de leur angoisse, se raccrochent presque désespérément. Au paroxysme d'ailleurs de la panique, le mot se dégenre et devient le panique. Et ça désigne alors l'affolement de la lecture angoissée des signes, ce dont je parlais tout à l'heure. Le panique va projeter les fidèles de l'ancienne religion dans une violence prophétique, violence qui les fera agir avec Dieu, dans Dieu, Et je cite encore Denis Crouzet plus loin, le tréfonds panique de l'humain bascule en un n'exister en Dieu. La grande influence de cette veine historiographique, qui est importante parce qu'elle se réactualise aujourd'hui, notamment dans une certaine attirance pour la psychologie des profondeurs, pour le corps au paroxysme, pour reprendre le titre du numéro spécial de la revue Sensibilité en 2017. La grande influence, c'est sans doute la tentative profondément originale et déstabilisante pour la discipline, parce que immensément sceptique en matière disciplinaire, d'Alphonse Dupont, de ce que Dominique Yungapra a appelé sa volonté de poétiser l'histoire. Le mythe de croisade d'Alphonse Dupont visait d'abord à imposer une langue. « Ma langue a pris de l'exigence », affirmait-il à la fin de sa vie. Une langue, c'est vrai, à nul autre pareil. Comme l'a montré Maïté Bouissy, un idiolecte, je la cite, « repérable, où se bousculent quelques lexèmes en tous sens combinés, profondeur, pulsion, panique, collectif, âme. » Et c'est aussi cette langue qui, d'une certaine manière, s'impose ou se réimpose aujourd'hui. Or, cette bousculade provoque chez son lecteur, ébahi ou agacé, le roulis des évocations. Et il faut comprendre aussi qu'il se double assez étrangement chez Alphonse Dupont d'une grande rigueur conceptuelle en matière d'emprunt à la psychanalyse. C'est ce qu'a suggéré Hervé Mazurel dans son livre récent « L'inconscient ou l'oubli de l'histoire ». Lorsque Jean Delumeau évoque dans La peur en Occident, je cite, « un climat d'anxiété, une névrose, une société peuplée de fantasmes morbides », il puise, mais l'air de ne pas y toucher, dans un arsenal assez éclectique de références psychiatriques ou psychanalytiques. Mais on serait bien en peine de savoir s'il statue, oui ou non, sur l'existence d'un inconscient collectif. Ce n'est pas le cas d'Alphonse Dupont, qui est l'un des très rares historiens à se revendiquer explicitement d'une psychanalyse jungienne, c'est-à-dire d'une psychanalyse pour qui l'inconscient collectif est bien l'assiette totalisante de l'expérience humaine. Or, c'est au nom d'une conception plus, j'allais dire, strictement lacanienne, que Michel de Certeau a pris la mesure de ce qu'il considérait être un danger pour l'écriture de l'histoire. Précisément dans son livre « L'écriture de l'histoire ». La force de Dupont, écrit-il, est d'ouvrir l'histoire à la nécessité de comprendre le non-historique. Donc, au fond, d'accueillir ce qui la déborde. Sa faiblesse, c'est de faire de cette profondeur sauvage et sacrée, qu'il appelle justement le panique, une fiction. Je cite Michel de Certeau, car en réalité, ce panique est le nom qu'une connaissance prodigieusement étendue donne à sa propre limite, à l'inconnu qu'elle révèle et rencontre dans son avancée. C'est pour ça qu'il considérait que c'était un risque, peut-être un beau risque, mais un risque pour la discipline, c'est que, d'une certaine manière, c'est une science qui avance vers sa naissance, comme l'écrivait Michel de Certeau. Sans doute, si je parle de Dupont, j'évoque ici une position radicale. Mais ce qu'elle radicalise, c'est une tendance générale de l'histoire des pratiques religieuses et de la spiritualité à la fin du Moyen-Âge. Ce que Jacques Chiffolo a proposé d'appeler la religion flamboyante. Mais s'il l'appelait la religion flamboyante, c'était pour faire front à une conception qui avait été longtemps dominante dans l'historiographie, imprégnant notamment la conception du temps des réformes, du long temps des réformes de Pierre Chenu, et qui envisage donc la religion du XIVe et XVe siècle depuis l'accusation d'indignité et de décadence portée par Luther. D'où la nécessité d'en reconnaître la rationalité, de repousser à la fois sa disqualification par le reproche des dérives superstitieuses ou par le soupçon de l'hypocrisie de l'Église, tout en écartant l'explication univoque de ces transformations de l'institution ecclésiale et du sentiment religieux par le seul effet de la peste. C'est tout l'effort du grand livre de Jacques Chiffolo, « La comptabilité de l'au-delà », les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen-Âge, qui rendait compte en 1980, à partir d'une analyse sérielle des pratiques testamentaires, de la mathématisation du salut qu'exprime la demande d'accumulation des messes pour les morts et la diversification des pratiques funéraires jouant du polycentrisme pour multiplier les suffrages. Alors, la description que fait Jacques Chiffolo d'une société qui, justement, se défait peu à peu de ses solidarités, de ses interdits, sous l'effet terrorisant de la peste, si on la lit aujourd'hui, c'est 1980 quand même, hein, c'est deux ans après la peur en Occident. Donc, elle est encore très dépendante de la croyance historiographique qui avait alors cours sur l'anomie des sociétés de peste. Mais tout son effort, justement, consiste à désynchroniser les chronologies de l'épidémie et des mutations des pratiques testamentaires, puisque ces dernières sont d'abord, pour lui, provoquées par le déracinement, qui est une conséquence du processus d'urbanisation. Et là, on voit l'influence, sans doute, de l'anthropologie politique des sociétés africaines. Cette urbanisation qui, dès les années 1320, en tout cas avant la peste, éloigne les hommes de la certitude qu'ils peuvent avoir de se faire enterrer non loin de leur père. Et c'est cette perte des ancêtres qui provoquerait un deuil impossible. Sans doute à relire les belles pages de Jacques Chiffolo, pourrait-on lui reprocher de prendre au mot les descriptions littéraires de la panique funéraire. Je cite, « Quand ils ne fuient pas, les survivants ne sont même pas assez nombreux pour organiser des funérailles décentes », écrit-il. On sait aujourd'hui, 40 ans après avec justement les progrès de l'archéologie funéraire, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que l'archéologie funéraire, précisément, documente très peu de sépultures de catastrophes, qu'au contraire, elle démontre le maintien des gestes et des rituels. Et on reconnaît plutôt dans ces descriptions littéraires la marque d'une intertextualité thucydidéenne qui valide et, en somme, la portée du témoignage, y compris chez Boccas. Autrement dit, il faut, pour dire qu'on a bien vu ce qu'on a vu, la peste, il faut dire qu'on a vu ce qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire des parents abandonner leurs enfants malades et des enfants négliger d'enterrer leurs parents. Précisément parce que pestis est le nom de ce qui dépasse l'imagination et déborde la capacité à la dire. Mais cette explication qui fut la mienne, je m'en avise à présent, est insuffisante. Sans doute, la constance obsessionnelle de ce thème doit-elle transposer un autre ordre de réalité. Et en relisant les pages de Chiffolo, je comprends ça. Quand Guy Tchauliac écrit, et c'est un médecin, et il est à Avignon, quand il écrit « Les gens mouraient sans serviteur et étaient ensevelis sans prêtre, le père ne visitait plus son fils, ni le fils son père, la charité était morte et l'espérance a battu », et quand on sait qu'on ne doit pas faire une lecture littérale de cette phrase, alors il faut comprendre qu'il appelle peste la métaphore de la lente déstructuration de cette société des pères, qui est attestée par ailleurs, non pas dans cette expression paroxystique elle-même, mais dans une évolution plus lente, plus pernicieuse, mais inexorable. Dans son chapitre de l'histoire de la France religieuse publié en 1988 et intitulé justement « La religion flamboyante », Jacques Chiffolo formulait à titre d'hypothèse, c'est seulement une hypothèse, insistait-il, que le narcissisme et la mélancolie des pompes funèbres flamboyantes sont le signe d'une protestation inconsciente des hommes de la fin du Moyen-Âge devant l'impossibilité où ils se trouvent de rejoindre leur père, de leur ressembler, de s'identifier à eux. Alors là aussi, bien sûr, on remarque l'usage peu contrôlé de ce vocabulaire psychanalytique. Il parle plus loin de retour du refoulé, de retour obsessionnel, de recours obsessionnel du chiffre, mais, et je cite cette fois la dernière phrase de la comptabilité de l'au-delà, c'est dans les larmes, la peur et la mélancolie que naît la rationalité des modernes. Et ça, évidemment, ça nous engage à réfléchir sur ce qu'est, ce nœud, cette conjoncture entre la catastrophe et le progrès. L'un des héros historiographiques de cette tendance historiographique, est sans doute Francesco Di Marco Datini, le fameux marchand banquier, producteur de laine, à la tête d'une compagnie qui commerce avec toute la Méditerranée, mais aussi l'Angleterre, les Flandres et jusqu'en Crimée. Il est né à Prato en 1335, il est mort dans cette même ville en 1410, et sa vie a été entièrement fauchée par la peste. En 1348, elle emporte ses deux parents et deux de ses frères et sœurs. Et c'est avec ce petit patrimoine que son père lui laisse. Marco, son père, était tavernier. En fait, il avait une boucherie sur la place du marché de Prato. Et comme il était boucher, finalement, il était entrepreneur en boucherie. Donc, il avait des terres. Donc, tout cela fait une rente qui permet à Francesco Di Marco Datini de faire son... une éducation à 13 ans, orphelin, en 1348, à Avignon, et puis de revenir ensuite à Prato. C'est à Avignon qu'il connut le retour de la peste deux fois, puis encore deux fois à Prato, et la dernière en 1399. L'historiographie a décrit ces mouvements pesteux comme des vagues d'angoisse qui produisent à chaque fois la culpabilisation du marchand. J'ai péché dans ma vie autant qu'un homme peut pécher, écrit-il à son épouse, car je n'ai pas su dominer mes désirs et je paie volontiers le prix de mes fautes. C'est en effet un très bon client pour la piété flamboyante, puisqu'il est riche et culpabilisé, et ce d'autant plus qu'il est à Prato un auditeur assidu des prédicateurs, et notamment Fra Giovanni Dominici, qui l'incite au mouvement pénitentiel. Et voici donc le marchand de Prato rejoindre pieds nus les bianchi, les pénitents blancs, les flagellants, partir en pèlerinage en 1399, et surtout, à la fin de sa vie, multiplier les offrandes, les dons, les legs, fondant notamment deux institutions charitables, deux hôpitaux à Prato. Or, ces mouvements charitables et pénitents sont effectivement rythmés par les retours pesteux. C'est là un thème bien connu dans l'historiographie, que cet enrichissement subi de l'institution ecclésiale qui voit affluer les dons et les legs et avec eux la rancœur et le soupçon d'hypocrisie, que, là encore, les historiens désireux d'aller chercher bien en amont de l'indignation luthérienne les origines d'une critique de la décadence morale de l'Église, utilise d'abondance. La poésie allitérative anglaise de la seconde moitié du XIVe siècle, qui exprime volontiers une critique acerbe des tensions sociales, en porte un clair témoignage. Les ordres mendiants en font clairement les frais, relançant une querelle ancienne, qui est la querelle de la pauvreté du Christ. Mais, par exemple, les analyses lexicographiques menées par Aude Meret éclairent, sans surprise, la proximité dans tous ces corpus textuels de frères, hypocrisie et mensonge. Donc les frères sont toujours des faux frères. Mais au-delà de cette protestation anticléricale, assez ordinaire, qui vise la cupidité et la convoitise des ministres, la charge se fait plus inquiète et plus angoissée lorsqu'il s'agit de dénoncer le marchandage des sacrements, car il en va alors d'un dérèglement de l'économie du salut. Ainsi de ces faux frères qui s'inclinent avec déférence devant rétribution, dans le poème allégorique Piers Plowman, rédigé entre 1360 et 1387 par William Langland, à travers les visions de Pierre le laboureur, à travers les visions qu'il reçoit en songe, eh bien, la satire sociale documente une société d'après la peste qui est clairement en tension, et en particulier sur ce sujet-là. Si l'on lit à présent la chronique parisienne dite de Jean de Venette, que j'avais déjà utilisée l'année dernière pour montrer avec Colette Beaune que cette chronique de Jean de Venette décrivait un monde, en fait, vide de signes. Le contraire, en somme, de la panique postulée par nos historiens, puisque ce que ça met en récit, c'est d'une certaine manière la mise en échec d'un temps annoncé. Il y a des choses qui devaient venir et qui ne viennent pas, mais inversement, ce qui advient n'était pas prévu. On approche avec ce texte, je l'avais déjà dit l'année dernière, sans doute de plus près, la conscience qu'eurent les acteurs de la nécessité de ce transfert de richesse à l'Église. Le carme témoigne de cette angoisse chrétienne de ne pas connaître une belle mort. Angoisse que le pape Clément VI a d'ailleurs tenté d'apaiser en accordant une indulgence plénière à tous ceux qui mouraient de la peste. Ça veut dire qu'il n'était point besoin de se confesser in articulo mortis, qu'il suffisait de se repentir avec contrition, ou au besoin de confier ses péchés à qui était là, un laïc, et même, précise l'évêque anglais de Bath, à une femme, si on ne peut pas faire autrement. Tout ça est bon, ça ne constitue pas, évidemment, du point de vue sacramentel, une confession, mais ça vaut rémission des péchés. Voilà ce qu'il fait écrire à Jean de Venette. Ils en mourraient plus volontiers, laissant à l'Église et aux religieux quantité d'héritages et de biens temporels, car ils avaient vu partir avant eux leurs héritiers, leurs proches et leurs enfants. Voilà effectivement cette douleur et cette angoisse, et c'est dire avec netteté, avec simplicité, combien l'Église, mais aussi le mouvement confraternel, et d'une manière plus générale encore, toutes les formes de parenté spirituelle pouvaient se substituer à l'affaiblissement des lignages. Et c'est peut-être cela que métaphorisent les descriptions paroxystiques de la panique funéraire qui, elle, n'a pas eu lieu. Mais revenons à notre marchand de Prato, Francesco di Marco Datini, pour tenter de saisir le passage de la peste dans la vie d'un homme, grâce à une documentation exceptionnelle, sa correspondance. La correspondance de Datini, c'est 152 000 lettres, dont 11 000 dites privées, et dans lesquelles on voit effectivement non seulement passer la peste, mais on le voit, lui, on voit tous ses efforts pour en rendre raison, pour essayer d'une certaine manière d'en faire récit. Il a connu, je le répète, 6 vagues de peste, dont la première l'a laissé orphelin à 13 ans. La peste, lui écrit son beau-frère en mai 1383, a surgi en divers endroits et s'étend dans cette direction. On voit comment on tente de lui échapper en anticipant ses mouvements. C'est comme, d'une certaine manière, et là, il faut comprendre ce que c'est qu'un réseau marchand, avec voilà, toutes ces informations qui circulent et ces lettres qui permettent de dire « elle est passée par ici, elle est par là, attention, elle est à Florence, ne venez pas, bah, si, venez quand même ». Avec toujours un temps de retard. À Florence, Niccolo brave les interdits de la Signoria et tente de fuir avec ses enfants, mais c'est trop tard. Mon fils Nanni a été frappé et un jour et demi plus tard, je l'enterrai. Et à Florence, les ravages excitent la compassion. Quelques mois plus tard, il insiste « Je t'implore de tout mon cœur, fuis avant que vous en soyez frappés, toi et les tiens ». Parfois, ce sont ses agents qui le préviennent. En 1393, la peste est en Roumanie. Alors, Francesco prévient sa femme qu'elle n'aura pas l'esclave domestique qu'elle attend. Les gens qui en viennent meurent sur le bateau et les survivants nous apportent le mal. En 1395, on l'informe que la peste est à Valence. Elle viendra aussi chez nous, répond-il. Certaines lettres évoquent la corruption de l'air, le danger qu'il y a à rester enfermé avec beaucoup de personnes dans une ambiance confinée. D'autres s'interrogent sur l'existence de remèdes. Ingrid Usay-Michiensi a bien montré dans la séance du séminaire du 13 décembre, tout ça vous pouvez le voir en ligne, qu'il convenait de saisir à partir de cette correspondance deux réalités qui ne sont qu'apparemment contradictoires. La première, c'est la douleur de perdre des proches, la peur de mourir, l'angoisse devant l'incertitude qui pèse. Les lettres emportent constamment témoignage, jouant sans cesse de l'écart temporel entre le moment de son écriture et celui de sa réception. Quand cette lettre te parviendra, peut-être je serai mort, ou alors elle t'annonce une bonne nouvelle, mais qui finalement est peut-être déjà derrière nous. Et ça, c'est quand même important. Il confie, par exemple, à Francesco Di Marco Dattini, confie à son ami Lapo Mazzei, qu'il s'est réveillé un matin avec des bubons. Il croyait que c'était fini, qu'il a appelé un médecin et que, ben non, c'était pas encore fini. Il n'allait pas mourir. La deuxième réalité, c'est une forme d'accoutumance à la présence de la peste, ou plutôt à son passage. La peste est là, elle passe par là. On tente de la pister, de lui échapper, d'en anticiper le parcours. On utilise le réseau des correspondances marchands, mais on ne réussit pas toujours. C'est une variable de la vie, et en particulier de la vie des affaires. La peste est un risque. De la même manière que le naufrage d'un navire, la prise de sa cargaison ou la réduction en esclavage de son équipage, qui peuvent être intégrés comme des risques, d'ailleurs, du point de vue assurantiel, dans les contrats d'affrètement. Le terme, d'ailleurs, de risicum ou resicum, qui fait son apparition dans le latin juridique du milieu du XIIe siècle, de manière très précise, dans des documents génois et pisans entre 1156 et 1160. Ce terme désigne peut-être d'ailleurs au départ le naufrage. Resco étant le récif ou l'écueil sur lequel peut se briser la nef. Mais ce resicum est en fait un aléa de fortune, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas nécessairement un danger, une situation périlleuse, periculum. C'est simplement un accident de fortune. Et fortuna est un terme ambivalent également. Ou pour reprendre toujours un vocabulaire attesté dans le droit maritime dès le XIe siècle, eh bien, ce sont des choses qui arrivent par aventure, des événements fortuits. Et comme le remarque Sylvain Piron, dans une étude sur la notion de resicum en Méditerranée occidentale, aventure est construit sur le participe futur adventurus, ce qui doit arriver. Il défend d'ailleurs la possibilité d'un emprunt à la langue arabe, le risque, qui désigne en arabe classique la part de Dieu, la part de bien que Dieu attribue à chaque homme. On pourrait dire sa chance, d'une certaine manière. Un des principaux risques, d'ailleurs, identifié pour la stabilité du commerce, c'est la variation du taux de change. Et au fond, dans les pratiques de la marchandise, dans les années 1330, il y a déjà une pensée du risque. Et on peut donc supposer que c'est cette pensée du risque qui a accoutumé la société médiévale à, avec toute la richesse sémantique de ce mot, au fait que l'épidémie fait aussi partie de ce qui peut arriver ou doit arriver. Bien entendu, cette mathématisation de l'aléa a encore ses limites. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la pensée assurantielle établit des risques de peste à partir des tables de mortalité. Mais à ce moment-là, comme l'a montré Guillaume Calafa dans une étude sur la rivalité commerciale entre les ports francs de Marseille, de Livourne et de Gênes dans les années 1670-1690. Le contrôle de l'information consulaire sur les routes de l'épidémie et la santé publique est un des instruments de ce que David Hume appelait la jalousie du commerce. C'est-à-dire que le soupçon ou la rumeur d'une déclaration de peste d'un navire en quarantaine peut être instrumentalisé comme une arme dans la guerre commerciale, c'est-à-dire que la contagion des rumeurs s'articule ici à la rumeur des contagions. Contrôlant l'information sanitaire, les consuls des ports francs devaient alors réagir promptement pour faire taire le bruit épidémique, surtout lorsqu'il était propagé de manière malveillante, ce qui arrivait très souvent, par un concurrent indélicat. Donc évidemment, là encore, cette société du risque qui se construit, elle intègre aussi, elle anticipe la possibilité de fausses rumeurs instrumentalisées pour détourner certains concurrents des places commerciales. Retenons en tout cas cette impression générale. Les sociétés européennes d'après la peste noire, loin de se laisser sidérer par une piété panique, sont en mouvement. Procession de pénitents, pèlerinage, c'est en se rassemblant, c'est en marchant et en marchant ensemble qu'on croit pouvoir se protéger. Bien sûr que les statues votives, les reliques, les images, les objets de culte accompagnent rituellement ce mouvement. À Montpellier, on s'entoure ainsi d'une ceinture de cierges en 1384, un seul fil qui mesure et encercle ses remparts et, enrobé de cire, allume en même temps des chandelles propriatoires. Cette mise en mouvement de la société d'après la peste, bien sûr qu'elle prend la forme également spectaculaire du pèlerinage. Durant l'été 1350, Barthélemy Bonis, riche marchand, banquier de la ville de Montauban, entreprit le pèlerinage de Rome. Une feuille volante insérée dans ses livres de comptes, publiés par Édouard Forestier en 1890, décrit son itinéraire depuis Avignon, 1000 kilomètres, passant les Alpes à Montgenèvre, traversant la Toscane, Pise, Sienne et finalement Rome par la Via Cassia. Ce qui décide Barthélemy Bonis à prendre la route, c'est qu'il a perdu deux enfants. Ses deux enfants sont morts de la peste. Il ne voyage pas seul. Il est accompagné de son domestique, Arnaud Guilhem, d'une petite compagnie de Montalbanais, certains à court d'argent. Alors il lui prête régulièrement quelques sous au fur et à mesure de la route, ce qui ne manque pas, évidemment, c'est un marchand, de consigner scrupuleusement. Et au 23e jour, voilà ce qu'il dit de son arrivée à Rome, « Dîner avec grande joie dans Rome, la veille, où fut le pardon à peine et à coulpe en l'an 1350, que donna notre Seigneur le pape Clément VI, qui se nommait Pierre Roger, à tous ceux et à celles qui y allaient, confessés et repentants, et leur remit leurs fautes, lequel notre Seigneur le pape était natif d'Auvergne. » C'est intéressant parce qu'on a l'impression que Barthélemy Bonis semble découvrir à Rome le nom, l'origine et la personnalité du successeur de Saint-Pierre, Clément VI, qui est en effet le pape de la peste en Avignon. Ça doit être bizarre quand même d'être pape pendant la peste. Là encore, on pourrait imaginer qu'il panique. Ben pas du tout. Il fait front à une épidémie qui emporte quand même en un an le quart des membres de la curie, qui oblige la machine bénéficiale à tourner à plein régime, parce qu'effectivement, voilà, les gens meurent, et donc tout ça remonte à Avignon, et puis on doit distribuer les bénéfices, et on les distribue à quelqu'un qui, au moment où on l'en prévient, est lui-même mort, bon, etc. Et voilà, effectivement, Clément VI qui alimente et cette machine administrative et la cheminée de sa chambre du palais d'Avignon où le brasier doit purifier l'air de ses miasmes mortels, à son médecin personnel Guy de Chauliac qui lui permet d'autopsier les cadavres des pestiférés, mais il ne met jamais de tourner vers l'est l'émeraude qu'il porte au doigt pour se garder de l'infection. S'il faut se garder des poisons, c'est vers le sud que la bague doit être orientée. Étienne Anheim a décrit dans son livre paru en 2014 Clément VI au travail, et notamment au travail intellectuel de l'écriture de ses sermons, eh bien, cette pratique d'un idéal d'une souveraineté savante, sûre de ses capacités intellectuelles à dominer le monde et le temps du monde, même en temps de peste, par les armes du savoir. Et on n'y voit pas du tout dans ces sermons la culpabilité débordante ou la piété panique. C'est par un sermon adressé aux ambassadeurs romains le 17 janvier 1343 que Clément VI définit la théologie du jubilé, celle qui amène notre marchand de Montalban à Rome. Cette théorie du jubilé, elle est fondée sur la théorie du trésor d'Église, le thésaurus ecclésiae. C'est un trésor qui est constitué de tous nos mérites accumulés et dans lequel l'Église peut puiser pour remettre nos péchés. Repris dans la bulle Unigenitus, qui est rédigée le même jour, 17 janvier 1343, c'est le seul texte de Clément VI à intégrer le corpus iuris canonici, le corpus du droit canon, parce que c'est le fondement du dispositif canonique de l'indulgence. Or, si cette bulle est rédigée le 27 janvier 1343, elle était destinée, elle est donc rédigée à l'avance, parce qu'elle est destinée à être publiée le 18 août 1349. Pour fixer les conditions du déroulement de la nouvelle année jubilaire. Alors, la première année jubilaire, on le sait, elle avait été édictée par Boniface VIII en 1300, et il était alors prévu que l'indulgence plénière soit accordée par le pape en vertu de sa plenitude potestatis à tous ceux qui viendraient en pèlerinage à Rome. Mais le mot même de jubilé, qui est hérité de la pensée juive. C'est jubilé, c'est défini par le Lévitique comme la fête de l'expiation. Le mot même de jubilé n'apparaît pas en 1300, si bien qu'on peut affirmer que le premier jubilé, c'est le deuxième, ou que c'est sa reprise en 1350, une reprise deux fois anticipée. Anticipée parce qu'on décide finalement qu'on n'attend pas 100 ans, mais on le décide en 1343, avant la peste. Et anticipé parce que tout ça est prévu d'une certaine manière par un rétro-planning. À partir de, on rédige la bulle en 1343, on la publie en août 1349, le temps que l'information circule, que le peuple chrétien se mette en marche, les gens seront à Rome, pas le pape qui lui est en Avignon, au début de l'année 1350. Mais entre-temps, il y a la peste. Et d'une certaine manière, ça ne change rien. Là encore, c'est un aléa, c'est nullement la cause principale du jubilé, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là. Évidemment que ça donne une autre signification, sans doute une ferveur particulière, et s'il est difficile d'évaluer le nombre de pèlerins, les nombres avancés dans la Nuova Chronica de Matteo Villani, affirmant que Rome accueillait continuellement 1 million de visiteurs sont extravagants, les sources abonde en revanche sur l'organisation logistique de l'événement, qui là encore suscite une vie de relation qui n'est absolument pas documentée comme une sorte de désorganisation panique. Matteo Villani,
tous les Romains étaient devenus hôteliers, donnant leur maison aux pèlerins à cheval, prenant un gros tournois par cheval et par jour, ou parfois un et demi, ou même deux, suivant le moment, car le pèlerin devait tout acheter pour sa subsistance et celle du cheval, en plus du méchant lit. Nous savons bien aujourd'hui, ou nous devinons aisément, que ces grands rassemblements ont vraisemblablement relancé la contagion. Mais là encore, les récits du jubilé de 1350 n'ont rien pour justifier une interprétation en termes de piété panique. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'organisation même de ce jubilé enjambe la peste. Et c'est la nécessité de faire ce qu'on avait prévu de faire. Certains sont morts de la peste, avant le jubilé, pendant le jubilé, après le jubilé. On mourait de la peste, parce qu'il y avait la peste. Mais dans le calendrier contrôlé du jubilé, ce n'est pas la peste qui fait événement. C'est la reprise d'un calendrier chrétien de l'économie du salut. Mais au fait, c'est quoi au juste mourir de la peste? Je voudrais terminer par là. Toujours à hauteur de cette expérience humaine. Nous sommes en juillet 1361, dans la ville d'Apt. Une femme, veuve d'un marchand de draps, qui se nomme Alassacia Messellano, se sent brûlée de fièvre. En se palpant l'aine, elle découvre une bosse. Bossum, une tumeur. Une de celles, dit-elle, qui annonce une mort presque certaine. Car c'était au temps de la dernière mortalité. Tempore, mortalitatis ultime et proxime, prétérité, raconte-t-elle 2 ans plus tard. Donc elle a survécu. Elle ne se souvient plus très bien parce qu'elle délirait. Elle disait des choses folles. Mais on l'emmena dans un couvent où était enterrée une sainte nommée Delphine. Les moniales la pensaient perdue. Mais elle pria Delphine, elle toucha ses reliques et fit un vœu. 8 jours plus tard, la fièvre était retombée, ses ganglions avaient disparu, elle était guérie. Alassacia Messellano est l'une des 68 témoins interrogés à Apt et à Avignon par les commissaires pontificaux qui instruisent le procès de canonisation de Delphine de Sabran. Et dans un livre récemment paru en 2021 à Cornell University, Nicole Archambault a repris ce dossier bien connu des historiens de la sainteté en Provence pour essayer de comprendre comment les témoins parlaient de leur expérience, du miracle, de la guérison, de la guerre, parce que c'est ça qui est obsessionnel, et en fait, assez peu de la peste. Delphine de Sabran, qui sait, elle est née à Puy-Michel, dans les Alpes provençales, en 1283. C'est une noble béguine qui épousa Elzéar de Sabran en 1399 et qui a imposé une vie de couple un peu bizarre, un modèle original de vie commune qui est le mariage virginal. C'est une sorte d'exploit qui plonge la société provençale dans une stupéfaction admirative. Un de ses hagiographes, d'ailleurs, écrit « En vérité, ces choses-là sont plus à admirer qu'à imiter. » En tout cas, c'est une forme de pénitence, de mortification, comme ce qu'elle fait d'ailleurs par ailleurs, laver les pieds des lépreux, se flageller et consoler les affligés. Son illustre mari, qui fut régent du royaume de Naples, a été canonisé en 1369, mais pour différentes raisons, aussi parce qu'elle est favorisée par les franciscains spirituels qui, à ce moment-là, sont un peu suspects d'hérésie, le dossier de Delphine, lui, n'avance pas. il rencontre de l'opposition à la curie pontificale, malgré le fait que Louis d'Anjou financera en 1372 une nouvelle instruction, mais toujours en vain. Donc on est en train de lire là un procès de canonisation qui n'aboutit pas. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que de son vivant, Delphine de Sabran avait consolé les affligés, notamment durant la peste de 1348, et ça lui est effectivement constamment rappelé, alors qu'elle était elle-même malade d'autre chose, elle était atteinte d'hydropisie et s'était recluse. Mais ses pouvoirs thaumaturgiques se poursuivent post-mortem par l'intermédiaire de ses reliques, elle meurt en 1360, et donc la deuxième vague, celle de 1361, 1362, est celle de ses miracles posthumes. Par ses linges, par ses cheveux, par ses eaux d'ablution, par ses fioles de larmes, parce qu'elle pleurait, elle avait le don des larmes, elle pleurait beaucoup. Alassacia Mecellano avait donc été guérie de la peste par l'intercession d'une sainte, enfin, elle n'était pas encore sainte, elle ne le sera pas, enfin, d'une bienheureuse, toute récente. Ce genre de guérison miraculeuse de la peste est en fait assez rare. On en trouve peu avant le XVIe et XVIIe siècle. Nicolas de Tolentino, qui est mort en 1305, dont le procès de canonisation, 20 ans plus tard, a été étudié par Didier Lett, ne produit son premier miracle contre la peste qu'en 1601. Ce qu'il y a de remarquable dans le dossier de Delphine de Sabran, c'est que les témoins sont tous des survivantes et des survivants des pestes de 1348 et de 1361. Et ils en parlent volontiers, mais ils en parlent, encore une fois, comme une circonstance ou un contexte, jamais comme un événement. Lorsqu'ils tombent malades, aucun de ceux qui sont interrogés, de celles et ceux qui sont interrogés, y compris dans le contexte de cette enquête par l'Église, aucune et aucun ne mettent en relation la maladie avec leur statut de pécheresse ou de pécheur. Mais personne, d'ailleurs, parmi les commissaires, ne songe à leur poser la question. On comprend, puisqu'ils ont guéri, qu'ils ont été soutenus par des réseaux d'amitié et de solidarité, notamment pour les accompagner en ce couvent de Sainte-Croix d'Apt, où cette jeune sainte commence à faire des miracles. Mais l'espérance dans les pouvoirs thaumaturgiques de Delphine de Sabran, vivante ou morte, n'était pas exclusive. Il consulte également des médecins, comme Giraud de Simiana, un membre de la haute aristocratie provençale, mais aussi d'ailleurs notre Alassia Mecellano, qui tente différents remèdes. Ces témoignages démontrent que les malades se font une idée assez précise du mal qui les assaille. Ils ont de la fièvre, ils ont des bosses, ok, ils savent ce que l'on peut attendre ou craindre de l'arrivée des bubons. Ils décrivent leurs efforts pour tenter d'y échapper. Ainsi, Raymond Danswiss, qui obtient un clistère d'une femme dans une église. Ils décrivent leur peine aussi de voir des proches et des parents mourir autour d'eux. Ils décrivent la consolation que Delphine de Sabran leur a apportée vivante lorsqu'ils étaient affligés par le deuil, morte lorsqu'ils ont pu, certains, guérir par la parole, par le geste, par les songes, par les visions. Tout ça est porté à son crédit. Elle était là. Elle était là au plus noir de la détresse. Et ça, c'est sa fama sanctitatis. Le plus frappant, sans doute, c'est que plusieurs témoins décrivent, et c'est touchant, l'émotion de la guérison. Pour Raymond Danswiss, c'est un choc sensible qui suit la visitation par le rêve de la sainte, et ça le fait basculer de l'autre côté. Pour Giraud de Simiano, C'est un sommeil profond et il se réveille. Pour d'autres, des femmes notamment, Renarda Laugheri et Cecilia Baxiana, c'est une joie profonde qui les arrache d'un coup à la mélancolie. Tout cela décrit de manière sensible et rationnelle l'expérience subjective d'un état de santé altéré, la douleur, l'angoisse, la peur de mourir. Les témoins de 1363 savent nommer ce qui leur arrive. Nous pouvons dire, mais eux ne le disent pas ainsi, qu'ils sont malades de la peste. Même s'ils n'adoptent pas un discours médical sur leurs symptômes, il est clair qu'ils inscrivent implicitement l'altération biologique qu'ils subissent et qu'ils ressentent et qu'ils disent dans une nosologie. Ce que nous lisons donc aujourd'hui, nous y reconnaissons le tableau clinique de cette maladie infectieuse causée par l'agent pathogène Yersinia pestis. Dans les termes de l'anthropologie médicale contemporaine que j'utilisais l'année dernière, on dira donc qu'ils sont malades, mais au sens de illness en anglais, qui c'est-à-dire ils ont une affection et que cette illness est interprétée comme un disease. Mais, et c'est le point crucial, en aucun cas ce disease est converti en sickness, c'est-à-dire en réalité socio-culturelle de la maladie qui assigne un malade au malade un rôle social. On pourrait dire donc que ces malades de la peste ne sont pas des pestiférés. Ils ne s'identifient ni ne se conduisent jamais comme tels. Ils sont tombés malades, oui, à un moment qu'ils identifient comme un temps de mortalité et font tout pour ne pas y succomber. Mais ils n'évoquent jamais la propagation de l'épidémie ou la contagion. Autrement dit, les témoins du procès de canonisation de Delphine de Sabran, survivants de la première et deuxième vague de la deuxième pandémie de peste, ne sont pas atteints par la peste noire des historiens. Ils ne paniquent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas lu suffisamment Jean Delumeau et Alphonse Dupron. Est-ce que c'est décevant ? Je ne crois pas. À la semaine prochaine.